Monsieur Gerald Weston a récemment publié une brochure très révélatrice. Elle est en anglais pour le moment. Elle sera traduite un peu plus tard sur les désastres naturels. En anglais, il l'appelle Act of God, les actions ou les interventions de Dieu. Je vais prendre plusieurs éléments de cette brochure-là pour présenter le message aujourd'hui. Et c'est important. C'est important que nous comprenions un peu mieux l'origine et la cause des désastres naturels et quel est leur rôle dans le plan de Dieu. Et en partant, il faut vraiment bien établir que Dieu est toujours en contrôle parfait de sa création. Il est toujours en contrôle parfait de sa création. Bien sûr, il permet que certaines choses arrivent, mais s'il ne veut pas qu'elles arrivent, il les bloque. Mais il est toujours en contrôle parfait de sa création. Et nous allons voir dans le sermon que parfois, c'est Dieu qui peut provoquer certains désastres naturels. Parfois, c'est Satan, l'adversaire, qui crée de tels désastres. Et souvent, c'est la création physique qui a été laissée à elle-même par Dieu qui se dérègle aussi. Et on va le voir durant le message. Donc, c'est des facteurs différents. Et la première raison de ça, c'est que l'homme a voulu que Dieu le laisse tranquille, le laisse seul. L'homme a rejeté l'intervention de Dieu et ne veut pas que Dieu intervienne dans ses affaires. L'être humain a aussi causé des déséquilibres dans la nature. Prenez par exemple simplement les gaz à effet de serre en rapport avec le réchauffement de la planète. Donc, ce sont des mauvaises actions humaines, tout comme la destruction de la couche d'ozone qui protège la Terre et l'humanité. Laissez-moi préciser une chose au point de départ, et vous allez le comprendre. C'est qu'il n'y avait aucun désastre naturel dans le jardin d'Éden, au moment où Adam et Ève ont été créés, après qu'ils furent créés, et ça pour un certain temps. La Bible ne dit pas pendant combien de temps qu'Adam et Ève ont marché avec Dieu, que Dieu leur enseignait avant qu'ils le rejettent. La création physique était en parfait état à l'origine. Ce que Dieu fait, il le fait dans un état parfait, au meilleur, au mieux. À ce moment-là, Dieu gardait la mainmise sur tout son fonctionnement. Il la protégeait des dérèglements. Il assurait la productivité du sol, la productivité des plantes et des arbres. Il y a du temps qui s'est écoulé, comme je vous ai mentionné. Puis, Adam et Ève ont choisi de rejeter Dieu et ses voies, ses enseignements, de faire les choses à leur façon. Alors, il y a du temps qui s'est écoulé, à partir du moment où Dieu a créé Adam et Ève, leur enseigné tout ça, jusqu'au jour où Adam et Ève l'ont rejeté, puis ont décidé de faire les choses à leur façon. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a respecté leur choix. Il dit, vous voulez faire les choses de votre façon? Allez-y. Je vais vous donner un certain temps, en fait 6000 ans, ou à peu près, pour faire vos expériences, et vous allez voir que le résultat ne sera pas extraordinaire. Et on arrive maintenant à la fin de cette période que Dieu nous a accordée, après s'être retiré, en laissant les choses aller, en abandonnant, en fait, l'homme à son choix. Vous avez choisi, vous allez vivre avec ce que vous avez choisi. Vous allez voir où ça va mener. L'homme voulait diriger et tenter de régler les choses lui-même, sans Dieu, séparé de Dieu. Quand on regarde notre planète, même encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de destruction, on se rend compte que c'est une planète remarquable. Beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Elle est sans aucun doute le produit d'un être suprêmement intelligent et suprêmement puissant, comme on va le voir. Je vais vous citer simplement un passage d'un auteur qui est un généticien connu, Michael Denton, qui a publié un livre en français qui s'appelle « Une théorie en crise », en parlant de la théorie de l'évolution, qui ne tient pas la route quand on analyse les choses comme il faut. Et M. Denton décrit la complexité des minuscules cellules bactériennes. Je vous cite les choses. bien que les cellules bactériennes les plus minuscules soient incroyablement petites. Chacune est en fait une véritable usine micro-miniaturisée avec des milliers de pièces d'une conception exquise, beaucoup plus compliquée que toute machine construite par l'homme et absolument sans parallèle dans le monde du non-vivant. Formidable. La complexité du type de cellule la plus simple connue est si grande qu'il est impossible d'accepter qu'un tel objet ait pu être assemblé soudainement par une sorte d'événement dû au hasard. C'est impossible qu'une petite cellule aussi complexe soit venue à l'existence et jouer le rôle qu'elle joue par hasard, absolument pas. Maintenant, je vais plus loin pour montrer la beauté de la nature puis du Créateur, de sa puissance. Il y a un équilibre fragile entre les plantes et les animaux. Ils sont vraiment interdépendants, peut-être plus que vous le pensez. Et là, je vous cite un paragraphe que M. Weston a écrit dans cette brochure de laquelle je me suis inspiré. Il dit « Le cycle oxygène-gaz carbonique marque la fine ligne nécessaire à la vie végétale et animale. » Les plantes dégagent de l'oxygène et les animaux dégagent du dioxyde de carbone. Les plantes et les animaux sont interdépendants. Les uns dépendent des autres pour vivre. Trop ou pas assez de l'un ou l'inverse finirait par éliminer la vie telle que nous la connaissons. Vous voyez à quel point cet équilibre-là, il est fragile, même entre les plantes et les animaux. Heureusement et étonnamment, notre atmosphère maintient une constante de 20,95% d'oxygène. Dieu a établi un barème qui se maintient, donc malgré les problèmes autour, ça se maintient. M. Weston continue en disant « Complexité, beauté, perfection et équilibre se retrouvent partout. Notre monde n'est pas là par un accident et il n'est pas le résultat du hasard. Il a été conçu par le Tout-Puissant. » Il est donc évident que cet être pourrait avoir quelque chose à voir avec ce que nous appelons les forces de la nature. C'est lui qui les a créées. Ce n'est pas surprenant qu'il ait son mot à dire et qu'il ait un rôle à jouer, quand il veut le jouer et comment il veut le jouer. Vous savez, les phénomènes météo jouent un rôle de régulateur sur la planète. Et je vous l'explique, je vais plus loin. Les orages, par exemple, ça peut être effrayant, mais ils ont un but aussi. Ils fournissent l'eau nécessaire, bien sûr, à l'agriculture, surtout pendant les mois chauds de l'été. Mais en plus de ça, les orages purifient l'air. Vous avez déjà vu ça? Quand on a beaucoup de pollution ici dans la ville de Québec et qu'il vient un orage et tout ça, la pollution s'en va. Donc, ça purifie l'air, ça distribue les graines. Et plus que ça, environ 20% des composés azotés nécessaires à la croissance des plantes sont le résultat direct de la foudre. Alors, voyez-vous, même la foudre joue un rôle pour maintenir l'équilibre dans la nature. Les ouragans, les cyclones, les typhons déplacent l'air chaud des tropiques vers les latitudes plus froides au nord, ce qui modère la température des deux régions. Voyez-vous, ça agit comme un modérateur, les ouragans, les cyclones et les typhons. La neige fournit aussi une couverture qui protège le sol et les cultures. Certains tremblements de terre construisent des montagnes, tout comme les volcans d'ailleurs. Mais, comme vous et moi, on le sait, et comme certains l'ont appris aux dépens de leur vie, les volcans peuvent être très dangereux pour quiconque vit trop proche d'eux. Il y a des milliers de personnes qui ont péri, par exemple, à Pompéi, dans les environs du volcan du Mont Vésuve, en 79 après Jésus-Christ. Et si on vient plus proche de nous autres dans le temps, je parle de 1980, mois de mai, le Mont Sainte-Hélène aux États-Unis. Il y a eu une éruption volcanique épouvantable. Mais quand on regarde les forces impliquées là-dedans, on voit les forces que Dieu a mises dans la nature. Vous trouverez ça sur historylink.org. Il y a un monsieur, Greg Lange, qui décrit la forte dévastation qui a été causée par cet événement-là. Et je cite. Un couple est mort en regardant l'éruption à 40 km de la montagne. Ils sont morts, ils étaient à 40 km, ils regardaient l'éruption. Leur décès a été causé par la chaleur, le fait d'avoir été enseveli aussi sous l'avalanche de débris, par la suffocation lorsque les cendres qui tombaient ont été inhalées. 348 degrés Celsius. C'est chaud. 348 degrés Celsius. Des gaz chauds et des morceaux pulvérisés de la montagne ont été projetés vers le nord et ont balayé le sol à une vitesse d'au moins 480 km/h. Alors, vous voyez le déplacement des vents. En moins de 5 minutes après l'éruption, l'explosion bouillonnante s'est fait sentir jusqu'à 35 km de la montagne, tuant presque toute la végétation. Des arbres d'environ 70 mètres de haut ont été dépouillés de leurs branches et de leur écorce, puis emportés comme des cure-dents. Le mont Sainte-Hélène est passé de la 5e plus haute montagne de l'État de Washington à la 30e plus haute montagne de l'État de Washington. Pourquoi? Parce que la montagne s'est abaissée d'à peu près 500 mètres dans cette explosion-là. Quelques 1500 kilomètres d'autoroutes et de routes ont dû être refaites ensuite. Le volcan a laissé un cratère de plus de 2,5 kilomètres carrés. Ça donne une petite idée des forces de la nature. Puis on n'a rien vu encore, parce que quand on va, on en parlera lors de la fête des trompettes, quand Dieu va intervenir lui-même de façon magistrale, juste avant le retour de Christ, lors des 7 trompettes, ce sera encore plus que ça. Dieu va manifester sa majesté. Alors, je reviens à ça. Pour le mont Sainte-Hélène, comme pour l'autre montagne dont je vous ai parlé, le mont Vésuve, il y a eu des signes avant-coureurs. Dans le cas du mont Sainte-Hélène, le côté nord de la montagne s'est bombé d'environ 100 mètres, OK, et gonflait de 1 à 2 mètres par jour. Donc, il y avait des signes avant-coureurs. Il y a eu des alertes d'évacuation qui ont été données. Mais comme à chaque fois dans ces cas-là, ce n'est pas tout le monde qui est parti. Certaines personnes pensent que ça va être pas si terrible et on pourra survivre. Il y a un principe biblique, vous pouvez le noter, Proverbe 27, verset 12. Ça, on doit s'en rappeler, parce que ça peut arriver dans nos vies n'importe quand. C'est marqué, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal, entend l'avertissement et se cache. Autrement dit, il prend les dispositions pour se protéger. C'est un conseil que Dieu nous donne, et M. Meredith nous en a parlé aussi beaucoup. On a une part à faire. M. Meredith disait, par exemple, si vous changez de logement, regardez là où vous allez. Ne vous installez pas dans un endroit bas qui peut être zone inondable ou au pied d'une falaise où il peut y avoir des chutes ou quoi que ce soit. Regardez où aller. Soyez prudent. Ne vous installez pas dans le creux d'une montagne au pied d'un barrage. Ce genre de choses-là. Parce qu'éventuellement, tôt ou tard, il pourra finir par avoir des problèmes. Bâtir dans une zone inondable, c'est pas sage. De la même façon que de construire sur le sable. On a vu, il n'y a pas si longtemps, des belles maisons sur la côte nord, grugées par les vagues du fleuve Saint-Laurent. Les gens s'étaient construits sur la plage, littéralement. Mais la plage a été mangée par les vagues et ils ont été obligés de détruire leur maison où ça n'avait plus de valeur ou ont été obligés de la déménager. L'érosion des berges. Le Christ avait parlé de ce principe-là. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 7, versets 26 et 27. Le Christ avait déjà dit que c'est insensé de bâtir une maison sur le sable. Et je vous donne une autre information. Si vous avez à bâtir une maison sur un terrain que vous ne connaissez pas, regardez les fondations, voir si c'est de la glaise aussi. Parce que la glaise, comme fondation, peut jouer des tours aussi, un peu comme le sable. Le Christ avait dit que c'est insensé de bâtir notre maison sur le sable ou sur des terrains inappropriés. Il dit, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et la maison est tombée. Le Christ avait averti de ça. C'est des règles, dans le fond, des règles de base. Les forces de la nature se déchaînent parfois. Les forces de la nature se déchaînent parfois. Et vous le savez comme moi, quand ça arrive, on éprouve de fortes émotions lorsqu'on est confronté à des forces naturelles effrayantes qui sont hors de notre contrôle. Ça m'est déjà arrivé, je me rappelle, quand j'étais petit gars sur la ferme chez nous, d'être pris dans une immense tempête en forêt et d'avoir une peur extrême. On se sent impuissant et on l'est. La tempête n'était pas aussi grande que je pensais, peut-être, parce que je n'étais pas vieux, mais c'est le même principe. Vous savez, et quand des tornades frappent ou que des feux de forêt se multiplient ou que des catastrophes, des calamités arrivent, les gens sont portés à demander secours à qui? À Dieu. Même ceux qui ne sont pas croyants ou même ceux qui ne donnent aucune attention à Dieu dans d'autres circonstances. Quand les vagues mugissent, quand les vents d'ouragan soufflent, quand le sol tremble violemment, quand les gens sont bloqués dans un blizzard ou au milieu de feux de forêt, et j'ai déjà été proche de cette situation-là aussi, alors ils lancent un appel au secours au Tout-Puissant, en espérant qu'il va venir à leur aide. Mais je pose la question, qu'est-ce qui se passe après que le sol cesse de trembler, après que le feu est éteint, après que le danger est passé? Les gens retournent à leur ancienne façon de faire et oublient Dieu complètement. C'était simplement passager. Dieu ne cause pas toutes les tempêtes et ne calme pas tous les vents. Parfois, Dieu va calmer les vents. Il est intervenu déjà, on l'a vu avec ses disciples. Et parfois, il le fait dans nos vies, à nous aussi. C'est un grand miracle aussi grand que ça, même si ça ne paraît pas aux yeux des gens autour. Alors, il ne calme pas tous les vents, mais il le fait. Mais c'est lui qui a mis ces forces-là en mouvement. Et il y a une chose que ces forces-là nous rappellent toujours, c'est que nous avons besoin de Dieu, besoin de sa protection. Et pour l'avoir, il faut vraiment être proche de lui. Il intervient parfois, comme je mentionne, et il le fait parfois directement, mais pour les buts qu'il poursuit. Il y a aussi comme facteur ce que la Bible appelle le temps et les circonstances. Allez dans Ecclésiaste, le 9e chapitre, s'il vous plaît. Salomon en parle. Ecclésiaste, le 9e chapitre. Ecclésiaste 9. Il y a le temps et les circonstances qui jouent sur la planète Terre. Parce que, n'oubliez pas, et je vais le préciser plus loin, après le choix de l'humanité de rejeter Dieu, Dieu a laissé aller sa création. Il laisse agir les éléments de la nature. Il n'intervient pas chaque fois. Il laisse aller les choses. Salomon en parle dans Ecclésiaste 9. On va lire les versets 11 et 12. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. » Et c'est vrai, il y a des gens qui remportent des prix qui ne sont pas les meilleurs, mais ils l'emportent quand même. « Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. » Les gens qui sont riches ne sont pas tous les plus intelligents. « Ni la faveur aux savants. » Et parfois, il y a des gens tout simples qui trouvent faveur aux yeux de grandes personnes, même s'ils ne sont pas les grands du monde. Car, et là, Salomon donne le principe. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances dans cette création que Dieu a laissée à elle-même. Regardez le verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Hein? On ne sait pas comment ça va arriver, ni quand. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Il y a des phénomènes naturels qui peuvent se produire spontanément, rapidement. C'est de ça que Salomon parle. Il dit à ce moment-là, devant ça, tous les êtres humains, dans le fond, sont égaux. Et si on n'a pas la protection expresse de Dieu, nous sommes à risque. Parfois, Dieu peut permettre certaines choses pour nous apprendre des choses. Mais ce ne sera pas comme ça dans le monde à venir. Ce sera complètement changé, ce sera complètement différent. Pourquoi ces catastrophes naturelles? La cause fondamentale de ça, c'est qu'il y a un prix à payer pour les mauvaises décisions des êtres humains qui ont rejeté Dieu. Dieu dit, vous m'avez rejeté, je vous laisse aller. Vous allez vivre avec ce qui va se produire. D'ailleurs, Dieu l'a dit en termes très simples. Vous irez voir dans Deutéronome, le chapitre 30 et le verset 19. Deutéronome 30 et le verset 19. C'était une mise en garde générale par rapport à l'ensemble de la vie, y compris les phénomènes naturels dont je vous parle, de la création que Dieu a laissé aller à elle-même. Il dit, « J'appelle le ciel et la terre comme témoins aujourd'hui contre toi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il dit, « Choisis donc la vie afin que toi et tes descendants puissiez vivre. » Voyez-vous? Il y avait un choix. Adam et Ève avaient un choix. Ils ont fait le mauvais choix. Mais il y a des malédictions qui viennent avec ce mauvais choix-là. Et je vais les préciser plus loin, ces malédictions-là que Dieu a données à Adam et à Ève en particulier. Je vais vous expliquer certaines choses. Mais il y a une autre raison aussi pour expliquer les grandes catastrophes de l'histoire. Le Créateur de la nature peut les utiliser pour réveiller l'humanité. C'est ce qu'il va faire à la toute fin. Il peut les utiliser pour manifester sa suprématie totale et réaliser les étapes de son plan. Parce que son plan est fait. Et à un moment donné, quand telle chose doit se produire, il intervient. Et s'il a besoin de certaines circonstances de la nature pour y arriver, il va le faire. C'est ce qu'on pourrait appeler, à juste titre, ce que les Anglais appellent « act of God », c'est-à-dire les actions de Dieu ou les interventions de Dieu. Et certaines de ces grandes interventions-là de Dieu ont changé l'histoire. Allez dans Genèse chapitre 6, s'il vous plaît. Je vous parle d'abord du déluge. Le déluge est venu pourquoi? Encore là, à cause des transgressions de l'humanité qui avait rejeté Dieu. Les péchés étaient à leur comble. L'humanité était rendue corrompue. Dieu a décidé d'éliminer tous les humains, sauf 8 personnes. Noé, son épouse, ses 3 fils et leurs 3 épouses. 8 personnes seulement ont survécu au déluge. Dieu va donner une chance à tous ces gens-là qui sont morts dans le déluge, parce qu'on sait qu'il y aura la deuxième résurrection où ces gens-là reviendront à la vie dans un autre contexte et ils pourront apprendre vraiment les voies de Dieu et là avoir la chance de changer. Mais regardons ici Genèse 6, verset 13. « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi. » Donc c'est terminé. Je tire la ligne. « Car ils ont rempli la terre de violence. » Ça ressemble à ce qu'on vit maintenant. « Voici, je vais les détruire avec la terre. » Fais-toi une arche de bois, de gopher, et ainsi de suite. Et là, il a dit à Noé de bâtir une arche et d'y faire venir des animaux et d'y entrer avec sa famille. Allez juste un peu plus loin dans Genèse 7. On va lire les versets 10 et 12, à 12. 7 jours après, pas 7 jours après qu'il y a eu dit ça, là, mais 7 jours après que Noé a eu fini de bâtir l'arche, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Maintenant, je vais plus loin. Je vais vous faire réaliser quelque chose. J'ai été frappé quand j'ai vu l'explication de ça dans la brochure de M. Weston, parce que le déluge n'impliquait pas seulement de la pluie. Il disait que Dieu intervient dans la nature pour accomplir son plan. Il n'y avait pas seulement de la pluie en jeu pour qu'il y ait de l'eau partout sur le sommet des montagnes, sur la terre. C'était plus qu'une énorme tempête de pluie. Il y avait quelque chose de dramatique et de plus puissant encore. C'est que l'eau venait non seulement d'en haut de la pluie, mais elle jaillissait aussi du sol, de l'intérieur de la terre. Alors, comprenez-vous que les deux combinés ont fait une source incroyable de quantité d'eau qui a fait en sorte que le déluge a été sur toute la terre et que tout ce qui avait vie a disparu à ce moment-là. Un autre « act of God » majeur, où il est intervenu par un désastre naturel, c'est du temps de Joseph, quand Joseph était en Égypte. Le pharaon de cette époque-là a eu 2 songes à un moment donné, très révélateurs, qui annonçaient ce qui allait venir. Lui, il ne pouvait pas comprendre. Et c'est là qu'il a fait venir Joseph pour essayer de comprendre. Pharaon a eu 2 rêves intrigants, avec des scénarios semblables l'un et l'autre. Premier songe, 7 vaches grasses, dévorées ensuite par 7 vaches maigres et laides qui ont détruit les premières. Son deuxième songe, c'était semblable, il a vu 7 épis abondants et après sont arrivés 7 épis maigrichons qui ont dévoré les 7 épis abondants. Et quand le pharaon a fait venir Joseph, qui était inspiré par Dieu, Joseph lui a dit, « Pharaon, c'est parce qu'il y a devant nous 7 années de grande abondance qui seront suivies ensuite de 7 années de disette, de sécheresse où la terre ne produira plus. » Qui pouvait faire en sorte que la terre ne produise plus? C'était le Créateur qui intervient parfois pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Alors, c'était des actes de Dieu. Ces 7 années alternées d'abondance et 7 années de famine ont été à l'origine de l'émouvante réunion de la famille de Joseph en Égypte. Dieu préparait les choses dans son plan à travers ça. Ils sont restés en Égypte pendant longtemps. Ils ont multiplié. Au fil du temps, par contre, le pharaon a changé et les dispositions des nouveaux pharaons ont été négatives envers les Israélites, de sorte qu'ils ont fait d'eux des esclaves. Ils ont crié à Dieu et Dieu est intervenu. Le livre d'Exode nous montre comment Dieu est intervenu pour délivrer sa nation Israël. Par 10 catastrophes écologiques. Quand Dieu veut utiliser la nature, il le fait dans son but. 10 catastrophes écologiques et humaines surnaturelles. Certaines étaient directement liées aux conditions météorologiques. Vous irez voir dans Exode 9, verset 18. Exode 9, verset 18. Et voyez ce que Moïse dit à Pharaon. Lorsque Moïse annonce la 7e plaie qui s'en vient sur l'Égypte, il dit « Voici, demain, vers 7 heures, je ferai pleuvoir une très forte grêle, comme il n'y en a pas eu en Égypte depuis sa fondation jusqu'à maintenant. » Alors, c'était majeur ce qui était annoncé. Et on sait par les textes que certains ont protégé leurs animaux, ils les ont rentrés en dedans, Dieu avait averti, de même que les serviteurs qui travaillaient au champ ont pu se mettre à l'abri. Mais certains ne l'ont pas fait. La même chose que quand on annonce un danger et que les gens n'y portent pas attention. Ils ne l'ont pas fait. Et cette catastrophe-là a causé la mort et la destruction de nombreux êtres humains et de nombreux animaux. Tous sont morts, ceux qui n'étaient pas à couvert, ceux qui étaient à découvert dans les champs. Ça aussi, c'était un acte direct de Dieu pour accomplir son plan. Maintenant, je vais plus loin. Autre intervention magistrale de Dieu par des désastres naturels. Sodome et Gomorre. Vous auriez pu me donner cet exemple-là. Destruction de ces deux villes qui étaient riches et perverses comme le monde d'avant le déluge et comme notre monde maintenant. Le Christ a bien dit, hein? Il dit, avant mon retour, là, le monde sera comme c'était avant le déluge. Alors que les gens étaient pervers, méchants, il y avait beaucoup de violence et tout ça, comme on a vu. Mais en ce qui concerne Sodome et Gomorre, c'était rendu à ce point-là. Et à un moment donné, le temps vient où Dieu trace la ligne. Il dit, ça suffit. Et là, il intervient. Et à ce moment-là, seul Lot et 3 membres de sa famille ont pu fuir à temps. Et même dans le cas de Lot, Dieu a été obligé de faire en sorte que ses anges l'insistent pour qu'il sorte. Parfois, on est attaché à nos affaires, vous savez. Parfois, on est attaché à nos lieux ou à nos choses. Ou à nos traditions. Il faut être prudent là-dessus. Priorité, c'est Dieu. Une fois qu'on connaît le vrai Dieu, qu'on connaît son plan, et ce qu'on a à faire, c'est notre chemin. Il faut le garder dans ce sens-là. Genèse 19, on va lire les versets 24 et 25. Genèse 19, 24 et 25. « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu par l'Éternel. Et il détruisit ses villes et toute la plaine. » Et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Il n'est rien resté. Intervention directe de Dieu. Act of God. Maintenant, je reviens sur un autre point que j'ai abordé récemment tantôt. Par ailleurs, depuis qu'Adam et Ève, et après ça, l'humanité après eux, eurent rejeté Dieu et même méprisé Dieu, le Tout-Puissant n'allait pas automatiquement intervenir pour eux. C'est normal. Il l'avait rejeté. Alors, il n'allait pas être obligé d'intervenir pour eux à chaque fois. Chaque fois qu'il allait avoir un tremblement de terre, chaque fois qu'un volcan allait faire éruption, chaque fois qu'il y aurait des pluies torrentielles ou qu'il y aurait des grêles dévastatrices, ou quand des épines croisseraient dans les champs, compliquant la vie des êtres humains. Allez à Genèse 3. Genèse 3. Et là, je vais vous expliquer certaines petites choses. Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 17. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » On a vu tantôt, « Choisis la vie pour avoir les bénédictions. » Choisis de suivre mes voies pour avoir la bénédiction. Mais là, Dieu a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Il va arriver des choses dans la production du sol qui seront contraires à la facilité, qui vont demander des efforts. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il produira des épines et des ronces. Ça faisait partie de la malédiction que Dieu a annoncée à Adam. Et après, verset 16, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Et ici, je vais vous expliquer, en passant, un aspect de ça qui est vraiment intéressant que M. Weston développe, que je trouve puissant comme explication en ce qui concerne les douleurs de l'enfantement pour nos épouses. Il y a un symbolisme dans ces malédictions-là. Quand Dieu parle de la femme qui conçoit et met au monde des enfants dans la douleur, il parle non seulement de la douleur physique au moment de l'accouchement. Il parle de beaucoup plus que ça. Et si on y réfléchit, on va comprendre pourquoi. Ça parle aussi de la douleur que la maman ressent en mettant au monde des enfants dans un monde qui est coupé de Dieu, avec tous les dangers que cela représente et tous les problèmes que ça peut amener pour nos enfants. On les voit aller dans ce monde-là et il y a une douleur qui vient avec ça. Mais vous, ce n'est pas juste le moment de l'enfantement et ça vaut pour le papa aussi. Bien sûr, plus pour la maman parce qu'elle est plus émotive, elle est plus intensément, je dirais, attachée à l'enfant que le père. Elle l'a porté. C'est formidable. C'est douloureux pour un parent, surtout pour une mère, de voir un enfant mourir, par exemple, prématurément, à cause d'une vie déréglée ou rebelle, ou de le voir souffrir en suivant les voies mauvaises du monde autour de lui, les dépendances, les violences, le laisser-aller, les maladies sexuelles et tout le reste. Des parents souffrent avec leurs enfants quand ils les voient aller dans ça. Et notre monde est de plus en plus enclin à offrir ces choses-là à nos enfants, et nous en souffrons. Dieu ne bénit plus automatiquement notre monde physique, comme il le faisait au tout début dans le jardin d'Éden. Il gardait les choses en ordre, en place, et il aidait Adam et Ève directement. Les ronces et les épines dont il parle ne se réfèrent pas seulement aux objets pointus dans les buissons. Les ronces et les épines, ce sont aussi les problèmes qui frappent la société humaine autour de nous, dans la vie de tous les jours. La difficulté de trouver du travail, d'être accepté, la difficulté des relations humaines, et ainsi de suite. Ce sont des ronces et des épines qui viennent avec la mauvaise décision de rejeter Dieu, d'avoir rejeté Dieu. De manière générale, Dieu laisse aller la création à elle-même. Je vous l'ai dit, je vais vous donner un exemple. Et à ce moment-là, la Bible l'explique clairement. Parce qu'il a laissé aller la création à elle-même, la création physique, elle est soumise à ce que la Bible appelle la vanité ou la décrépitude par l'adversaire. Vous irez voir dans Romains 8, versets 20 et 21, où il est question justement de la création. Après que Adam et Ève et l'humanité ont rejeté Dieu, la création qui a été abandonnée par Dieu, laissée à elle-même, non pas laissée à elle-même d'une certaine façon, mais elle a été automatiquement mis sous la tutelle de Satan, parce que Satan a pris le contrôle de la famille humaine. La nature elle-même fut séparée de Dieu quand l'homme a rejeté son Créateur. Regardez ce qui est écrit. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui, Satan, qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption à laquelle elle est soumise maintenant, pour avoir part un jour, quand le Christ reviendra, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Quand le Christ va revenir, quand ceux qui appartiennent au Christ vont naître de sa famille, et que la famille divine régnante va administrer la terre, Dieu va ramener les choses dans leur état initial. La création va retrouver la gloire des enfants de Dieu. Va trouver cette gloire-là, devrais-je dire. Mais ça sera comme un retour à Éden, si vous voulez. Je vous donne un exemple. Très simple. Un père de famille a un fils. Il veut l'encourager. Il lui achète une voiture. Il lui donne une voiture. Pourquoi? Pour l'encourager à bien faire. Il lui dit comment l'entretenir. Il lui donne des conseils de père pour sa vie en général aussi. et pour lui apprendre à prendre soin de, chez, de ses choses. Il lui dit quoi faire. Et il garde l'œil un peu, il le laisse aller, il est prêt à lui aider, à lui faire penser, par exemple, à faire son changement d'huile, ou s'il y a quelque chose, qu'il y a un bruit bizarre dans le moteur, lui, il a de l'expérience, il va dire, bien, fais vérifier telle chose, parce que ça peut amener d'autres problèmes, c'est mieux de le faire corriger tout de suite, voyez-vous. Alors, le père travaille avec son fils, il lui a fait un beau cadeau, la vie humaine sur la planète, il lui a donné un beau cadeau, il dit, voici comment t'en occuper pour que ça fonctionne bien, et je vais t'aider, je vais être là, je vais être à côté de toi. Il garde l'œil, prêt à lui aider. Mais, le fils, comme Adam et Ève, rejette son père, lui tourne le dos, fait des bêtises de toutes sortes. Qu'est-ce que le père fait? Tu veux faire ce genre d'expérience-là? Je te laisse aller. Vas-y. Tu vas voir que le résultat ne sera pas extraordinaire. Tu vas apprendre, mais à la dure. Un jour, je pourrai t'aider en bout de route, quand tu seras rendu au terme de cette expérience malheureuse. Alors, le père laisse aller la voiture à elle-même. Il ne va pas voir tous les jours sous le capot, voir s'il y a de quoi améliorer, voir si les pneus sont en bon état, voir s'il y a autre chose à corriger. Non, il laisse aller. Et comme il laisse aller et que le garçon n'est pas fiable, n'a pas appris, n'est pas discipliné et brise les choses plutôt que de les améliorer, bien, la voiture n'est pas bien entretenue, elle s'abîme, elle fonctionne mal et elle se détraque. C'est l'histoire de la Terre. C'est l'histoire de la création physique. Je vous donne cet exemple-là pour que vous voyez un petit peu ce que j'étais en train de vous expliquer tantôt. Au niveau des humains qui ont rejeté le Créateur, Dieu laisse aller les choses au gré du temps et au gré des circonstances. Et ce qui arrive, ce sont des situations dangereuses et des situations désastreuses. C'est le monde dans lequel nous vivons. Pour le moment, Dieu laisse aller sa création physique. Et tout peut arriver, même subitement, n'importe où, n'importe quand. Et on le voit de plus en plus dans les bulletins de nouvelles. D'où notre besoin, à nous qui connaissons le vrai Dieu et qui sommes bénis de pouvoir connaître sa parole et d'avoir son aide pour la mettre en pratique, d'où notre besoin d'être proche de lui en nous efforçant de vivre selon ses lois pour avoir sa protection, pour avoir sa protection, pour qu'il soit avec nous, pour qu'il s'occupe de nous. L'Ecclésiaste parle de ce facteur temps. Et comme on a vu tantôt, Ecclésiaste 9, versets 11 et 12, il dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. » Comme on a vu tantôt, c'est le même principe. Et je vous donne ça pour vous amener à un autre verset. Dans le verset 12 d'Ecclésiaste 9, comme je vous ai lu tantôt, « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons, qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. » Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Tout peut arriver n'importe quand, n'importe où. Mais je ramène ça parce que le Christ en a parlé aussi dans d'autres termes. Le même principe exactement. Vous irez voir dans Luc 13, versets 4 et 5. Luc 13, versets 4 et 5. Ici, le Christ donne un exemple d'un accident qui est arrivé à des personnes qui n'étaient pas plus méchantes que les autres. Verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé. Il y avait eu ce gros accident où une tour s'était effondrée et avait tué bon nombre de personnes. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Voyez-vous, il y a le temps et les circonstances. Être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ça, c'est l'élément essentiel pour nous. Continuez de nous repentir jusqu'au retour de Christ. Je reviens à ça. Disons que les désastres naturels, ça nous montre une chose de base bien importante. C'est qu'on a absolument besoin de notre Créateur. Pas seulement pour respirer, pour manger, pour comprendre les choses, pour vivre, mais pour avoir sa protection. Je reviens là-dessus. Dieu reste toujours, toujours en charge et en contrôle parfait de tout. Il intervient parfois directement, mais toujours pour accomplir son plan ou pour intervenir dans la vie d'un de ses serviteurs pour un besoin particulier. pour l'encourager, pour l'aider, pour le prévenir ou pour lui éviter certaines choses ou pour l'aider à apprendre certaines choses. Un autre facteur permis par Dieu, un autre facteur important qui intervient parfois pour provoquer des désastres naturels. Ce facteur-là, ça s'appelle Satan. Et Satan peut provoquer des désastres naturels. Mais Dieu lui met des limites. Vous savez une chose? Je pense que si Dieu ne lui mettait pas de limites, il y a longtemps qu'il n'existerait plus d'êtres humains sur la face de la terre, parce qu'il veut nous détruire. C'est clair. Et s'il ne peut pas le faire, c'est parce que Dieu lui met des limites. Parfois, Dieu va ouvrir la porte un peu pour qu'il touche certaines personnes, pour nous réveiller ou pour nous amener à comprendre certaines choses et à aller plus loin. Mais c'est Dieu qui est en charge tout le temps. C'est un autre facteur, Satan. Et là, on pourrait dire « act of Satan » ou des actes de Satan, si vous voulez, ou des interventions de Satan. Il y a un monde invisible qui est réel et Satan en est le chef. On a un exemple très intéressant dans le cas de Job, serviteur fidèle de Dieu. Bon, vous savez, on n'y s'y reportera pas, mais Satan s'est présenté devant le trône de Dieu au ciel. Dieu a dit, « As-tu vu mon serviteur Job? » Et Satan dit, « Oui, oui, c'est ton serviteur, mais si il arrive des problèmes, tu vas voir, il va te rejeter, puis il va t'envoyer promener et tout ça. » Alors, ce qui arrive dans l'histoire, c'est que Dieu lui permet de toucher à Job, de l'affliger, de lui infliger des choses difficiles, mais toujours en fixant des limites. Un des résultats de ça qu'on voit, c'est une série d'épreuves, dont des désastres naturels, justement, parce que c'est de ça que je vous parle dans le message aujourd'hui. Entre autres, il y a eu un feu du ciel qui a consumé ses brebis et ses serviteurs. Il y a eu, après ça, un grand vent qui a fait s'écrouler une maison sur tous ses enfants qui étaient réunis en même temps à cet endroit-là. Tous ses enfants, d'un seul coup. C'est fort. L'adversaire est là. Et l'adversaire a pour nom aussi destructeur. Satan veut dire adversaire. Diable veut dire accusateur. Mais quand vous regardez dans Apocalypse 9, verset 11, on donne le nom Apollyon en grec et Abaddon en hébreu. Et ces deux noms-là veulent dire destructeur. Et Satan, c'est d'abord un destructeur. Mais dans la mesure permise par Dieu. Et regardez bien, à la toute fin de l'histoire, Satan fera descendre du feu du ciel par les mains du faux prophète. Vous le savez par la Bible, hein? C'est Satan qui permettra ce prodige qui va éblouir l'ensemble de l'humanité, qui vont dire « Ah, ça vient de Dieu! » Mais ça va venir de l'adversaire, c'est une tromperie, c'est des fausses apparences. Il y a un esprit maléfique à l'œuvre dans le monde et il est sans doute responsable de certaines catastrophes naturelles, peut-être même de plusieurs. C'est pas pour rien que le Christ l'appelle le prince de ce monde. Le Christ appelle Satan le prince de ce monde. Il le laisse, pour l'instant, diriger. Et c'est pas pour rien que Satan a offert au Christ tous les royaumes du monde. Le Christ n'a pas dit, « Ah, ces royaumes-là sont à moi. » Non, c'était à lui. D'ailleurs, Satan dit bien dans ce passage-là, « Dieu me les a donnés, c'est vrai, pour l'instant, jusqu'à temps que Dieu mette un terme à ça. » Alors, pour le moment, Satan est le prince de ce monde. Et comme l'apôtre Paul dit, il est le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air. Résumons. D'où viennent les désastres naturels? J'espère qu'on va retenir un peu des nuances de ce que je vous donne aujourd'hui pour qu'on voit davantage la réalité de ces choses-là et notre besoin de Dieu aussi. D'où viennent les désastres naturels? Parfois, ça vient de Dieu, comme on a vu, pour accomplir son plan. Parfois, ça vient de l'adversaire, Satan, avec la permission de Dieu. Et parfois, comme on a vu, c'est simplement le temps et les circonstances dans une création qui a été laissée à elle-même, où Dieu n'intervient pas chaque fois pour toutes circonstances. Et parfois, comme on l'a entrevu un peu aussi, dans une certaine mesure, c'est dû à l'action des êtres humains. Vous savez, sans Dieu, l'homme ne fait pas le poids devant la nature en furie. L'homme ne fait pas le poids devant la nature en furie. Il s'agit de voir quand il vient un tsunami, hein, qu'est-ce qui se passe. Des fois, on a vu des images de ça dans des immenses vagues qui sont arrivées dans des régions côtières Les gens essayaient de fuir comme ils pouvaient, mais ils étaient tous emportés, leur voiture emportée, leur maison emportée. Il n'y a plus rien qui peut résister devant certaines forces de la nature. Et quand Dieu va ouvrir les portes au temps de la fin, lors des trompettes, ce sera encore plus que tout ce qu'on a pu voir dans les bulletins de nouvelles et ce qui a pu arriver jusqu'à maintenant. Quand Dieu dit qu'à la toute fin, il y aura un tremblement de terre, comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire du monde, ça veut dire que ça va trembler, et pas à peu près. Et c'est pour ça que Dieu, dans ce contexte-là, dit « Ils sauront que je suis l'Éternel ». Toute l'humanité va savoir qu'il y a un Dieu qui est en charge, qui a laissé aller pour un certain temps, et qui a laissé les gens bâtir leur religion, leur croyance, se pensant bon, se pensant fin, mais qui vont être arrivés à un cul-de-sac épouvantable, où il n'y a pas d'issue de survie à moins que Dieu n'intervienne. Et c'est ce que Dieu va faire. Mais l'homme ne fait pas le poids devant la nature en furie. Dès le début de 2019, il y a eu plusieurs catastrophes naturelles qui se sont produites. Des catastrophes majeures, dont celle survenue en Australie. Peut-être ça va rappeler un certain souvenir à quelques-uns. Mais je vais vous citer un passage ici d'un document qui est paru sur fox61.com, sur Internet, qui décrit ce qui s'est produit dans cette épouvantable calamité qui a frappé le Queensland. Après plusieurs années de sécheresse, là, il est venu une pluie extraordinaire. On pensait que c'était formidable, mais ça n'était pas formidable. C'était épouvantable, c'était encore pire. Après 7 ans de sécheresse, les éleveurs de bovins de l'État australien du Queensland ont accueilli avec joie les pluies torrentielles qui s'annonçaient comme une bénédiction. Enfin de l'eau. Or, ce fut l'une des inondations les plus dévastatrices de l'histoire de l'État. Une industrie $1 milliard pourrait être laissée en lambeaux. Les autorités estiment que près de 500 000 têtes de bétail, 500 000 de bovins, 500 000 têtes de bétail ont été tuées par les inondations dans le nord du Queensland. Ça a passé d'une extrême calamité à une autre extrême calamité de l'autre côté. Et c'est un peu ce qui va se passer au temps de la fin quand Dieu dit, celui qui va penser se sauver d'un ours, il va mettre la main sur une muraille, puis un serpent qui va le mordre, c'est symbolique, mais ça décrit qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'endroit pour se sauver. Et regardez ce qu'on dit en terminant, 500 000 bovins ayant survécu à des années de sécheresse sont tout à coup morts sous la pluie. Ça, c'est les possibilités qu'il y a dans la nature. Nous vivons, bien sûr, sur une planète extraordinaire, très dynamique, mais elle est changeante aussi. Et pour le moment, elle est laissée à elle-même. Mais la cause réelle des désastres naturels, la cause profonde de ça, c'est le rejet de Dieu par l'humanité qui lui dit « Laisse-nous tranquilles ». C'est ce que l'humanité dit à Dieu. « Laisse-nous tranquilles. Nous ne voulons rien savoir de toi. » Nous voulons faire les choses que nous voulons. Par exemple, quand Dieu dit « Tu ne commettras pas d'adultère », comment est-ce que les humains réagissent? Les humains disent « Ce n'est pas mal. Entre adultes consentants, ce n'est pas mal. C'est même bon pour un couple d'avoir des relations extra-conjugales. » C'est ce qu'on entend. On entend les spécialistes parfois à la télévision vanter les mérites des relations extra-conjugales comme si ça allait aider le mariage. L'humain ne veut pas faire ce que Dieu dit. Mais comme on a vu tantôt dans les annonces, il y a un nombre de maladies transmises sexuellement qui se multiplient de façon exponentielle, justement parce qu'il y a tous ces phénomènes de perversité qui sont maintenus. L'humain ne veut pas suivre les voies de Dieu. Quand Dieu dit, par exemple, « Tu ne tueras pas », un autre commandement, qu'est-ce que les humains disent? La guerre est un moyen d'exercer la diplomatie entre les nations. C'est ça. Vous entendez ça parfois dans les nouvelles. On ne peut pas faire autrement que de livrer bataille pour que les relations s'établissent d'égal à égal entre les nations. Mais ce n'est pas ça. La guerre est un moyen d'exercer la diplomatie. Ou encore, on va dire, devant Dieu qui dit « Tu ne tueras pas », l'avortement est pas mal. C'est le choix de la mère. Il est enfant là-dedans. Le petit bébé à naître, quel est son choix? Il est simplement assassiné. Alors, voyez-vous, les humains ne veulent pas suivre les voies de Dieu. Quand Dieu dit « Tu observeras le sabbat », qu'est-ce que les humains font? Ils observent le dimanche avec cœur et avec enthousiasme. On ne peut pas leur reprocher, ils ne le savent pas. Mais ils ne veulent pas observer le sabbat, n'importe quel jour, mais pas le sabbat. Même certains vont vous dire, moi, j'ai pas de jour. Je peux le faire le mardi ou le mercredi ou le jeudi. Dans le fond, ils font rien. Mais surtout, ils font pas ce que Dieu dit de faire. C'est la façon dont les êtres humains agissent avec Dieu. Et on pourrait faire une liste très longue des exemples de ça. Les humains ont toujours dit à Dieu, on ne veut pas mettre en pratique ce que tu nous dis de faire. Bientôt, par amour, notre Père va puissamment attirer l'attention de nos nations. Allez dans Amos chapitre 4. Amos chapitre 4, on va lire à partir du verset 6. Amos 4 et le verset 6. On va lire du verset 6 à 8. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Et ça, c'est ce qui vient. Le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est frappant de voir qu'est-ce que Dieu nous dit ici. Dans le fond, Dieu nous dit, même quand il va frapper nos nations plus fort qu'il les frappe maintenant, les gens vont encore refuser de se tourner vers lui. Vous n'êtes pas revenus à moi malgré ça, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux et fait pour eux. Et Dieu voulait leur donner ce qu'il y avait de mieux. Même quand vous regardez dans l'Ancien Testament, je lisais ça, je pense que c'est dans Deutéronome 11, Dieu a dit, je vais même protéger vos troupeaux. Quand il disait à Israël, suivez mes lois et je vais être avec vous. Je vais protéger vos troupeaux, je vais même mettre de l'herbe dans vos champs. Voyez-vous, il allait s'occuper de la nature pour qu'Israël soit bien, pour qu'ils aient ce qu'ils avaient, ce dont ils avaient besoin, mais ils l'ont rejeté. Et c'est la triste histoire de l'humanité qui va atteindre son point culminant à la fin. Et même quand Dieu va envoyer des punitions plus sévères, ils vont rejeter Dieu. Verset 7. « Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. » Et ça, ça vient. « J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. » Et avez-vous remarqué, on voit ça de plus en plus de ce temps-là. Des pluies parfois torrentielles sur une ville et sur la ville à côté, pas. Et la ville d'à côté manque d'eau. Ou la ville qui reçoit beaucoup d'eau a tellement de dégâts qu'elle est dans une mauvaise posture après. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Voyez-vous à quel point il va devoir aller loin pour réveiller les consciences humaines par rapport à ça? Allez dans Jérémie, chapitre 5, maintenant. Jérémie, chapitre 5, un peu avant. Jérémie, chapitre 5. On va lire à partir du verset 23. Jérémie 5. 23 à 25, ça définit le peuple de Dieu, comment Dieu le voit et comment ce peuple-là est réellement. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont, se détournent de Dieu. Ils ne disent pas dans leur cœur, « Craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. » Ils ne réalisent même pas que la pluie vient de Dieu, que la nourriture vient de Dieu, que l'air vient de Dieu. Qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson, comme il faisait quand Israël lui obéissait. Et regardez le verset 25, la conclusion qu'il tire. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations, la pluie en son temps, la bonne culture, les récoltes abondantes, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Voyez-vous l'ampleur, la portée des transgressions des êtres humains, de nos transgressions? On n'est pas mieux que les autres. Dieu nous a pris au milieu des êtres humains. Il nous a montré les choses à changer. Il est patient, miséricordieux envers nous et tellement encourageant. Les choses vont bientôt changer sur la terre. Dieu va tout reprendre en main. Il va rétablir l'équilibre dans la nature. comme à l'époque du jardin d'Éden, avant qu'Adam et Ève le rejettent. Voyez ce qui est dit, un dernier verset, Joël chapitre 2, et on va lire le verset 23. Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, là il parle du début du millénium, quand le Christ va revenir. Et vous, enfants de Sion, ceux qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, parce que là, vous allez savoir d'où vous viennent toutes les bonnes choses, car il vous donnera la pluie en son temps, le rééquilibre de toute la nature. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et regardez le dernier petit bout de phrase. Comme autrefois. Comme autrefois. Comme c'était au tout début. On va revenir à la situation du Jardin d'Éden qui était dans un état de bon fonctionnement et de perfection. Vous savez, à travers tout ça, à travers les messages qu'on a aussi, on apprend à connaître de plus en plus le grand Dieu qui nous a appelés à le servir. Faisons notre part de mieux en mieux sa volonté et restons proches de lui sous son aile protectrice.